1954 à nos jours. Dans les années 50, qui est une période en Occident très... Ça marche ? Qui est une période très difficile. Il y a une dégradation des mœurs déjà qui commence à se manifester. De sorte que le christianisme connaît une stagnation, voire une régression. Et pendant cette période, les églises de Pentecôte sont les seules églises qui progressent. C'est particulièrement vrai en Amérique du Sud et notamment au Brésil. La décennie 50 et 60 est essentiellement la décennie de l'Amérique du Sud. Ces pays qui sont très marqués par le catholicisme, un catholicisme très dur, n'est-ce pas ? D'ailleurs, dans ces années-là, il y a encore des persécutions violentes contre les chrétiens évangéliques dans certains pays d'Amérique du Sud, où, au nom du catholicisme, ces chrétiens sont mis à mort. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. N'est-ce pas ? C'est le cas en Colombie, au Pérou, au Mexique, etc. Donc, il y a là une progression extraordinaire, une véritable, traînée de poudre. Et c'est ainsi que, pendant la décennie des années 50, on compte au Brésil une église créée chaque jour. Et il y a une véritable soif dans le cœur de ces gens qui sont... en général très pauvres, c'est parmi les plus défavorisés, les plus démunis que se répand le plus rapidement l'Évangile, de gens qui sont lassés justement du joug du catholicisme et qui trouvent dans les églises évangéliques, et notamment pentecôtistes, un extraordinaire pouvoir de libération et d'espérance. Mais c'est également en Europe... que malgré justement le tassement des autres églises, il y a une progression des mouvements de Pentecôte qui se poursuit. Néanmoins, à partir des années 60, on va assister là aussi à une stagnation des mouvements de Pentecôte en Europe. Et puis dans la décennie 70, à une régression. Il faut dire qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes théologiques qui interviennent à cette époque-là. Et c'est essentiellement, justement, dans le tiers-monde que la progression du mouvement de Pentecôte est la plus importante. En 1954, par exemple, l'évangéliste anglais Tommy Hicks tient une campagne d'évangélisation très importante en Argentine, à Buenos Aires, qui voit se tourner vers le Seigneur des milliers et des milliers de personnes. C'est aussi l'époque où il y a une progression très importante, assez lente, en Indonésie, aux Philippines et dans toutes ces régions du sud-est asiatique. D'ailleurs, dans les années 60, on aura l'occasion d'y revenir, éclatera en Indonésie, à Timor, un extraordinaire réveil, un des plus beaux réveils de toute l'histoire de l'Église. La quatrième convention mondiale de Pentecôte a lieu en 1954 et la cinquième a lieu à Toronto en 1958. Et en 1958, ce que l'on constate, c'est que le mouvement de Pentecôte est en progression partout dans le monde, y compris en Europe. On n'est pas encore arrivé à la stagnation donc des années 60, et encore, on peut avoir l'idée que les choses progressent. C'est ce même Tommy Hicks qui, dans cette même année 1958, parvient à tenir une campagne d'évangélisation en Russie, Russie soviétique à cette époque-là. C'est aussi l'époque où le mouvement tzigane, nous l'avons vu, est non seulement en progression en France, mais également dans le monde entier, et qu'il devient à cette époque-là un mouvement mondial d'évangélisation. On constate aussi à la fin des années 50 une forte progression du mouvement de Pentecôte en Italie, notamment à la suite de campagnes d'évangélisation qui sont tenues par un évangéliste américain, ancien acteur de cinéma de Hollywood, Harold Herman, qui a été d'ailleurs aussi aviateur et qui, pendant la guerre mondiale, a été, je crois, dans l'avion ou dans un avion qui escortait celui qui a lâché la première bombe atomique, qui s'est converti à la suite de cet événement particulièrement dramatique. Il y a un certain nombre de diffusions de l'esprit plus limitées. Par exemple, dans les années 50, au milieu de la décennie 50, il y a un puissant mouvement de l'esprit en Angleterre parmi les étudiants des collèges bibliques pentecôtistes à Kenley, dont le principal est Donald G, et à Burgess Hill, dont le principal est Fred Squire. Fred Squire, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. La décennie 60, alors, voit le tassement dont nous avons parlé. Et en même temps, il y a un autre, quelque chose d'autre qui commence. C'est le début du réveil charismatique dans les églises historiques. Nous allons avoir l'occasion de revenir sur ces événements, dont le pasteur David Duplessis sera le principal artisan. C'est 1959, la date où il va, pour la première fois, poussé par le Saint-Esprit, se rendre au Conseil œcuménique des Églises à New York et commencer ce ministère tout à fait particulier qui lui avait été prophétisé par Smith Wigglesworth bien des années auparavant. David Duplessis était alors secrétaire de la mission La Foi Apostolique, qui était le principal mouvement pentecôtiste sud-africain, puisqu'il était donc originaire d'Afrique du Sud. Et à partir des années 60, David Duplessis va se consacrer quasi exclusivement à ce ministère de témoignage au sein des églises historiques. C'est en 1959 également qu'a lieu une campagne très importante de Thiel Osborne en Hollande, qui va marquer encore profondément ce pays qui a aussi encore un vieux fond évangélique qui vibre encore à cette période-là. Cette même année, M. Zimmerman est élu président des Assemblées de Dieu d'Amérique et Donald G. devient président des Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne. C'est l'époque aussi où il y a une profonde pénétration de l'Évangile dans le cœur de l'Afrique, et notamment dans le Congo ex-belge, qui, en cette année 1960, connaît une indépendance très anarchique qui amène des troubles extrêmement importants dans ce pays, au cours desquels deux missionnaires sont assassinés, deux missionnaires américains, anglo-saxons en tout cas, sont assassinés. Deux ans plus tard, en 1962, c'est la mort de George Jeffreys et le 7 octobre de la même année de Fred Squire. C'est son gendre Vildrian qui le remplace donc à la tête de l'IBTI. Quant à Donald G., il devient principal, outre ses fonctions de président des Assemblées de Dieu de Grande-Bretagne, il devient principal du Collège public de Kenley jusqu'en 1963, où il sera associé avec Elisha Thompson. Dans ces mêmes années, Oral Roberts, évangéliste américain, crée à Tulsa, en Oklahoma, une grande université chrétienne, pentecôtiste, dans laquelle il a la vision de créer les élites pour le monde pentecôtiste de demain, qui vont influencer, pense-t-il, le monde dans le bon sens. C'est en 1963 également que les premiers catholiques sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et vous, ce sont en quelque sorte les premiers et les pionniers de ce mouvement qui se manifestera dans son ampleur à partir de la fin justement de la décennie, c'est-à-dire des années 67, 68 et surtout des années 70. La 7e convention mondiale de Pentecôte a lieu en 1964 à Helsinki sous la présidence de Donald G. Et cette conférence constate que déjà donc on peut voir un certain tassement des mouvements de Pentecôte, notamment en Europe. En Amérique, et notamment aux États-Unis, le mouvement se poursuit. Et notamment, il y a là des églises telles la Church of God, différents mouvements de la foi apostolique qui se développent d'une manière tout à fait considérable. Même chose en ce qui concerne le Chili, où il y a un mouvement pentecôtiste qui est issu du monde méthodiste, de telle sorte que les pentecôtistes chiliens jusqu'à ce jour continuent à baptiser les enfants. Et il y a là, en 1965, 600 000 pentecôtistes chiliens qui représentent donc la première église, la plus importante église non catholique dans ce pays du Chili. On trouve aussi des églises de langue espagnole à New York qui se créent donc aussi dans des milieux qui étaient autrefois très, très catholiques. Une des raisons aussi de ce tassement, en quelque sorte, des mouvements de Pentecôte, c'est que ces mouvements sont combattus par les églises historiques. Et un des principaux reproches qui est fait à ces églises, c'est qu'ils volent des brebis aux autres églises, ce qui n'est pas d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, totalement dépourvu de fondement. Il y a, de fait, un certain pentecôtisme agressif qui fait que un fossé se creuse avec les églises établies. Il y a, évidemment, de très nombreux pentecôtistes dans le monde entier et un certain nombre de sociologues considèrent que le pentecôtisme, à la fin des années 60, apparaît comme étant la troisième force du christianisme. Un article retentissant est écrit par un théologien américain, d'ailleurs c'est cet article qui va avoir une grande influence sur David Duplessis, nous aurons l'occasion de le voir, et ce théologien écrit que, à côté des deux grandes familles du christianisme, le catholicisme et le protestantisme, il oublie l'orthodoxie, bien entendu, en bon occidental qu'il est, il y a maintenant une troisième force qui est le mouvement de Pentecôte, avec lequel, justement, il faut compter. David Duplessis lit cet article et il est profondément bouleversé et il décroche le téléphone, il appelle l'auteur de cet article pour le remercier, justement, d'avoir dit des choses si positives sur le mouvement de Pentecôte. Chose qu'il n'était pas tellement habitué à entendre, et se présente comme pasteur pentecôtiste. Et ce théologien l'invite à déjeuner. Et ça va être aussi, avec la visite au Conseil œcuménique des Églises, qui a lieu à peu près à la même époque, les deux éléments qui vont donner justement le point de départ du mouvement charismatique dans les Églises historiques, telles que justement Smith Wigglesworth l'avait vu. Et maintenant, justement, il est temps d'aborder ce nouvel aspect du développement du pentecôtisme, si j'ose dire, ou le mouvement charismatique, disons, dans le monde. Nous avons vu le mouvement charismatique en France quand nous avons étudié l'histoire de l'Église en France au XXe siècle. Nous allons voir maintenant ce qui concerne le mouvement charismatique dans le monde. Le pionnier, l'instrument essentiel de cette œuvre sera le pasteur David Duplessis. David Duplessis est issu du mouvement de Pentecôte sud-africain qui a débuté en 1908 à Johannesburg lorsque deux missionnaires américains envoyés par la rue Azusa à Los Angeles ont commencé à prêcher le réveil. Le père de David Duplessis était charpentier et il fut un des premiers à participer à ces réunions avec son fils David qui était alors âgé de 9 ans. Il était âgé de 9 ans, un petit peu plus tard, donc, puisqu'il était né en 1905 au Cap. Ses parents étaient déjà membres d'une église de réveil non charismatique. Ils avaient vécu des réveils et c'est pourquoi, lorsque ces missionnaires américains sont arrivés, ils ont été parmi les premiers à s'intéresser à ce nouveau mouvement. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que à cette époque-là, les relations entre noirs et blancs étaient tout à fait positives et tout à fait bonnes. Et ces bonnes relations ont beaucoup influencé justement le jeune David. C'est dans une de ces réunions que son grand-père, qui était malade du cœur, a demandé la prière pour la guérison. Il n'a pas été guéri. Mais les parents de David ont fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. La famille Duplessis appartenait à l'Église réformée d'Afrique du Sud. Et lorsqu'ils ont fait cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, ils ont été exclus avec 15 autres membres de cette Église qui avaient fait la même expérience de cette Église réformée. À la fin de l'année 1915, sont arrivés d'Angleterre une famille de missionnaires pentecôtistes qui avaient l'intention d'établir, non loin de Johannesburg, une station missionnaire. Et ils ont demandé donc au père de David de les aider. Pardon, c'était pas à côté de Johannesburg, c'était beaucoup plus au nord, donc dans une région qui était uniquement peuplée de Noirs, c'était le Lesotho. Et ils ont demandé donc à la famille de David Duplessis, comme le père de David était charpentier, de venir les aider à construire cette nouvelle station missionnaire. Par conséquent, la famille Duplessis s'est installée au Lesotho, dans des huttes africaines, au milieu de la population africaine. Et là, parmi cette population noire, le réveil a éclaté avec puissance. David Duplessis racontera plus tard comment il a été témoin même de résurrection de mort, n'est-ce pas ? Les guérisons, n'en parlons pas, elles étaient tout à fait courantes. Et il y avait donc des transformations extraordinaires parmi ces gens qui étaient, peu de temps encore auparavant, animistes, à enfoncer jusqu'au cou dans la sorcellerie la plus noire, telle qu'on peut la trouver justement dans ces pays, qu'on pouvait la trouver encore, au moins à cette époque-là, encore aujourd'hui certainement, dans ces pays d'Afrique. Et c'est quelque chose qui avait frappé considérablement le jeune David, qui avait une dizaine d'années à cette période-là, et qui voyait des transformations spectaculaires chez ces Africains, que malgré tout, le blanc qu'il était, qui avait quand même beaucoup plus d'éducation que ne l'avaient la plupart de ces Africains, avait tendance à les mépriser. Il disait, voilà, ces gens sans instruction, sans passé religieux comme j'ai, je suis issu d'une famille de Huguenots qui sont venus s'installer au moment de la réforme là-bas au Cap, etc. Et voilà que eux font des expériences extraordinaires avec Dieu, et moi qui ai une éducation religieuse et une éducation tout court, je suis au point zéro, en quelque sorte. Et David Duplessis s'est mis à rechercher la face de Dieu pour jaloux qu'il était, en quelque sorte, de ce qu'avaient ces Africains, d'une tout à fait bonne et tout à fait excellente jalousie, bien entendu. Et c'est ainsi qu'un beau matin, alors qu'il avait 11 ans, le missionnaire anglais pour lequel il travaillait lui a demandé d'aller chercher un paquet à la poste. Aller à la poste, c'était très loin à cette époque-là, et il lui a dit « Tu n'as qu'à prendre mon cheval ». Et donc le jeune David, âgé de 11 ans, était tout heureux de chevaucher sur ce cheval. Et c'est alors qu'à son retour, après avoir pris ce paquet, il a été pris dans un orage épouvantable. Des trompes d'eau, le tonnerre, la foudre qui tombait autour de lui, le cheval qui se cabrait. Il a vu la mort en face, il dit je vais être foudroyé, je vais mourir, j'y arriverai jamais. Et soudain, il a réalisé qu'il n'était pas sauvé. Que s'il mourait là, il était perdu, il allait en enfer. Et donc là, il a crié à Dieu de tout son cœur. Il a demandé au Seigneur de changer sa vie, de pardonner ses péchés. Et c'est donc là qu'il a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Il est donc arrivé sain et sauf à la station missionnaire. Et donc, l'année suivante, en 1917, il a été baptisé dans l'eau. Et c'est un an plus tard qu'il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit. D'une manière tout à fait bizarre, il avait faim et soif de cette bénédiction. Et il cherchait un endroit tranquille pour prier le Seigneur. En ce temps-là, donc, la famille Duplessis avait quitté le Lesotho, puisqu'ils avaient terminé le travail qui leur avait été demandé. Et il était revenu donc dans une ville qui s'appelait Lady Burnt, non loin de Johannesburg, où il avait d'ailleurs été baptisé dans l'eau. Il s'était joint à l'église pentecôtiste du lieu. Et là, le jeune David, âgé de 13 ans, avait une grande faim, une grande soif du baptême dans le Saint-Esprit. Et il y avait donc non loin de l'endroit où il habitait, un hangar qui servait à une fabrique de cercueils. Et là, il y avait donc des cercueils qui étaient entreposés. Et là, c'était un endroit tranquille, évidemment, il n'y avait pas grand monde qui venait. Et alors, il a choisi cet endroit pour chercher la face de Dieu, pour attendre le baptême dans le Saint-Esprit. Et dans le même temps, dans cette ville donc de Lady Blunt, une puissante vague de l'esprit, un réveil a éclaté. Et malgré cela, donc, David Duplessis avait beau prier, chercher la face de Dieu, la bénédiction qu'il attendait ne venait pas. La première chose qu'il faisait quand il sortait de l'école, après avoir pris son goûter, c'était de se rendre là-bas, dans ce hangar rempli de cercueils, pour y chercher la face de Dieu. Et un beau soir, alors qu'il était tout seul dans ce hangar, une jeune fille est arrivée. Elle lui dit, c'était une jeune chrétienne, elle lui a dit, « David, voilà, le Seigneur m'envoie vers toi. J'ai un message pour toi. Le Seigneur m'a dit que tu n'aurais pas la bénédiction après laquelle tu aspires aussi longtemps que tu n'aurais pas réparé la chose que tu connais. » Alors, David lui dit, « Mais c'est tout ?» Il dit, « Oui, c'est tout. Qu'est-ce que c'est cette chose ?» Ben, il dit, « Moi, je ne sais pas. Je dis ce que le Seigneur m'a mis à cœur de te dire maintenant. Le Seigneur m'a dit, tu connais, donc tu dois connaître, tu dois savoir. Moi, je ne peux pas t'en dire plus. » Elle l'a laissé. Et de fait, David Duplessis s'est souvenu d'un mensonge qu'il avait dit à ses parents un certain temps auparavant. Et il a compris la réalité de ce message. Il est donc retourné chez lui, chez ses parents. Il a confessé son péché. Et le jour suivant, il a été puissamment baptisé dans le Saint-Esprit. Immédiatement, il a commencé à témoigner autour de lui. Et même dans des réunions publiques. Et à 15 ans, il a eu la conviction qu'il était appelé à la prédication. Dans cette même année, donc, la famille Duplessis a déménagé à Johannesburg, situé à 450 km de là, où se tenait, à la fin de cette année-là, donc, une convention chrétienne d'une semaine. Il y a eu, pendant cette semaine de réunion, une effusion de l'esprit absolument extraordinaire, de telle sorte que l'Église a grandi dans de telles proportions qu'il a fallu trouver un nouveau local. Et dès le jeudi de cette fameuse semaine, il y avait 600 participants. Et c'est ce fameux jeudi qu'a eu lieu donc cet épisode que David Duplessis a raconté avec son humour, où le prédicateur, avec fougue, avait prêché sur l'âne des rameaux, quand le Seigneur avait envoyé ses disciples pour détacher l'âne. Et donc, les maîtres de l'âne avaient dit « Pourquoi le détachez-vous ? » Et les disciples avaient l'ordre de dire « Le Seigneur en a besoin. » Et donc, le prédicateur avait dit, bien, vous n'avez peut-être qu'un âne à mettre à la disposition du Seigneur, mais quand bien même vous n'auriez qu'un âne, le Seigneur en a besoin. Alors, qui est prêt à donner son âne au Seigneur? Il a fait un appel à la consécration en prenant cette image de l'âne. Et David Duplessis a été très étonné de voir son père être le premier à se lever et dire, bien oui, moi, je n'ai qu'un âne à donner au Seigneur, mais cet âne, je le donne. David, viens ici. C'est ainsi que David s'est trouvé catapulté, en quelque sorte, dans le ministère, puisque c'était de cela qu'il s'agissait, finalement. Et alors, il dit avec beaucoup d'humour, après ça, tout le monde l'appelait l'âne du Seigneur. C'est un surnom qui lui restait, l'âne du Seigneur. Et, bon, c'était bien, mais enfin, il avait 15 ans. C'était quand même un peu jeune pour commencer vraiment à faire l'œuvre de Dieu. Et il fallait qu'il travaille. Donc, il est entré comme apprenti dans une imprimerie chrétienne de la ville, dont il est devenu rapidement le patron d'ailleurs. Il est devenu le patron, mais c'était une imprimerie chrétienne où tout le monde vivait par la foi. Donc, il n'avait pas de salaire assuré. Et ça lui a permis donc de faire des expériences aussi dans le domaine de la foi, dans ce domaine-là. Mais bon, c'était quand même quelque chose qui était temporaire. Et il a ensuite travaillé comme employé dans les chemins de fer de la ville, tout en se joignant à la plus grande église pentecôtiste de la ville, de telle sorte qu'il s'est mis à prêcher et à seconder le pasteur. Dans cette église pentecôtiste, il y avait, parmi les membres de cette église, Madame Herzog, qui était la femme du premier ministre de l'époque. Cette femme était convertie, baptisée dans l'eau, baptisée dans le Saint-Esprit, après avoir été membre de l'église réformée. Et à partir du moment où elle avait fait ses expériences, elle en avait témoigné ouvertement, de telle sorte que les journalistes avaient écrit là-dessus en long, en large et en travers. Tout le pays était au courant de ce qui s'était produit. Le Premier ministre lui-même accompagnait parfois sa femme, mais bien entendu, ses responsabilités politiques l'empêchaient, si j'ose dire, de s'engager aussi loin que ne le faisait sa femme. David Duplessis s'est lié avec cette femme d'assez près, c'est pas, elle l'a beaucoup aidé. Et c'est elle qui, un beau jour, lui a présenté une jeune chrétienne rétrograde, Mademoiselle Jacob. Et lorsque David Duplessis s'est trouvé en face de cette jeune fille, l'Esprit du Seigneur lui a dit, ce sera ta femme. Il a donc eu l'occasion de ramener cette jeune fille au Seigneur. Et c'est ainsi qu'effectivement, le 13 août 1927, David et Anna, s'appelait Anna, se sont mariés. David n'était pas encore dans le ministère à plein temps à partir de cette période-là, mais il avait essentiellement un ministère de visite. Un an après leur mariage, les Duplessis ont eu une fille qui a été prénommée Cory. Et c'est alors que David Duplessis a envisagé d'entrer à fond dans le ministère. Et là, il a eu à cœur d'entreprendre une formation pour le ministère, et notamment une formation d'études supérieures. À cette époque-là, dans le milieu pentecôtiste en général et dans le milieu pentecôtiste sud-africain en particulier, c'était très mal vu. L'intellectualisme était la bête noire, c'était l'esprit de l'Antichrist, et aucun pasteur n'avait entrepris d'études au-delà du certificat d'études. Ça aurait été disqualificatoire que de faire autrement. Mais David Duplessis a eu la conviction par le Saint-Esprit qu'il devait entreprendre ses études secondaires. Il a été encouragé d'ailleurs pour cela par Madame Herzog, et il a été donc le premier prédicateur pentecôtiste à entrer à l'université. Son père était furieux. Son père pensait que c'était une véritable trahison, et il y a eu une terrible tension entre le père et le fils, de telle sorte que le père l'a pratiquement renié, il l'a exclu de la famille. Il a fallu des années et des années pour que le père se rende compte que son fils avait bien été conduit par le Saint-Esprit et qu'il y a eu une réconciliation par la suite. Mais pendant tout un temps, donc, il a été coupé d'avec sa famille simplement parce qu'il avait pris cette orientation. Peu de temps après son entrée à l'université, David Duplessis a connu une terrible tentation. Il avait pour habitude de prêcher en plein air, comme c'était la coutume dans les milieux anglo-saxons à cette période-là. Et il était très, très. Il avait beaucoup de succès, il aimait beaucoup ça, était très éloquent. Et un jour, un homme politique l'a entendu prêcher l'évangile. Et à la fin de la réunion, il a pris à part, il lui a dit, écoute, tu as un don d'orateur absolument extraordinaire, tu ferais un tribun politique extraordinaire. Est-ce que tu ne voudrais pas entrer en politique et puis tu entrerais dans notre parti, je te mettrais sur la liste pour les prochaines élections, tu pourrais, mais oui, moi je suis appelé à prêcher l'évangile, mais ça t'empêcherait pas, au contraire, là, en tant que chrétien, dans le monde politique, tu pourras avoir une influence favorable, etc., etc. Évidemment, c'était très tentant pour le jeune David Duplessis, et il a pendant tout un temps hésité, priant, cherchant la face de Dieu, se demandant si de fait son appel n'était pas la carrière politique. Et il a eu à cette époque-là la bonne idée de s'en ouvrir à Madame Herzog, la femme du Premier ministre, qui immédiatement lui a dit, écoute, David, ne fais surtout pas ça. Ça, c'est tu es appelé à la prédication de l'Évangile. Tu ne sais pas ce qu'est le milieu politique. Dis-moi, elle a dit, moi, je le connais indirectement par mon mari, mais c'est un milieu pourri. Là, tu ne tiendras pas. Tu vas perdre ton ministère, tu vas perdre ta vocation, tu vas perdre ton appel. Et c'est ainsi que David Duplessis, grâce au conseil de cette sœur, a donc abandonné l'idée d'embrasser une carrière politique. C'est en 1930 donc qu'il est devenu pasteur d'une église pentecôtiste à côté du pape du Cap dans l'État d'Orange. Tout en étant aussi un des rédacteurs de l'organe officiel du mouvement de la foi apostolique, qui était le mouvement de Pentecôte auquel il appartenait. En effet, David Duplessis, et c'était justement ça le plan de Dieu pour lui, ayant fait des études supérieures, savait écrire, savait avait une culture que beaucoup de pasteurs n'avaient pas. Donc, il était un de ceux qui, bien que très jeune, a été amené à devenir un des leaders du mouvement, finalement, du mouvement de Pentecôte d'Afrique du Sud. Dans ces années-là, la crise de 29 a commencé à se faire sentir en Afrique du Sud, de telle sorte que, pendant 6 mois, David Duplessis est resté sans toucher le moindre salaire de la part de son église. Et c'est alors que, bon, il s'est rendu compte qu'il fallait qu'il trouve une solution. Et il a donc demandé à être repris dans l'imprimerie dans laquelle il avait travaillé en son temps. Et donc là, il a pu toucher un salaire. Bon, il avait évidemment beaucoup évolué depuis le temps où il était jeune apprenti dans cette imprimerie. Et sa culture, sa connaissance, son sens journalistique, il avait était très doué pour ça, ont fait qu'il a pris pratiquement l'imprimerie en main. Et les journaux qui étaient imprimés là en main. Et en l'espace de 7 mois, le chiffre d'affaires de l'imprimerie a quadruplé grâce à lui. Il a donc été amené à être manager de l'imprimerie sans en avoir officiellement le titre. Et puis finalement, c'est lui qui dirigeait tout. Il dirigeait tout à l'imprimerie, au journal. Bon, il est resté là quelque temps, puis évidemment, il s'est rendu compte que la gestion de cette imprimerie qui s'était considérablement développée lui prenait beaucoup de temps, et beaucoup trop de temps par rapport à son ministère. Et c'est ainsi qu'il démissionna donc de cette imprimerie pour se consacrer à nouveau tout entier au service de Dieu. C'est en 1936 qu'il fut nommé secrétaire général de la mission apostolique de la foi, c'est-à-dire le principal responsable du principal mouvement de Pentecôte sud-africain. Et c'est à ce titre-là qu'il reçut donc cette même année Smith Wigglesworth, la fameuse vision qui a été à la base de son appel tout à fait spécifique. Smith était à cette époque-là âgé de 70 ans, et donc était reçu pour une tournée que David Duplessis lui avait organisée dans les églises de l'Afrique du Sud. Smith venait juste d'arriver en Afrique du Sud. Il résidait donc dans la maison de David Duplessis. Et ce matin-là, donc, David Duplessis s'était levé assez tôt pour avoir un moment de prière et de méditation. Il était seul dans son bureau. Le soleil était à peine levé. Soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Vous savez, Smith se précipite sur lui. Sans lui dire un mot, le saisit par le collet, comme ça, le fait lever de sa chaise, le colle contre le mur. Et avec une voix de stentor, comme il en avait, commence à prophétiser. Prophétiser, donc, en gros, de la prophétie, il disait en gros ceci, que ce mouvement qui était né au début du siècle, qui avait déjà atteint les extrémités de la terre, était en passe. Un jour viendrait où il connaîtrait une nouvelle extension. Pour l'heure, ce mouvement avait touché des gens qui étaient en marge des églises officielles, mais il viendrait un deuxième temps où ces églises officielles, ces églises historiques qui avaient rejeté le mouvement du Saint-Esprit seraient touchées par lui. Et qu'un mouvement qui allait dépasser en ampleur tout ce qu'on pouvait imaginer allait éclater au sein de ces églises historiques et les bouleverser de fond en comble. Et le Seigneur ajoutait ceci, parlant donc à David Duplessis, il disait « Tu seras un des principaux instruments de ce réveil, tu voyageras dans le monde entier, etc. » Et le Seigneur annonçait un certain nombre de choses. Et la prophétie se terminait à peu près comme cela. « Et si tu es fidèle, tu verras l'essentiel de ce réveil. » Donc, annonçant une longue vie. Et puis, Smith l'a laissé, il est reparti, comme il était rentré, sans dire un mot. Alors, bon, David Duplessis, vous imaginez, était un petit peu groggy. Il se rassit à son bureau et à ce moment-là, on entend. Passe la tête de Smith. « Je ne vous dérange pas, je peux rentrer. » Alors, tu dis rentrer, oui, mais... Alors, je lui dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Lui dit David Duplessis. Il dit, voilà, le Seigneur m'a réveillé ce matin, dit Smith. Et voilà, il m'a donné ce message que je vous ai communiqué. Il m'a dit, voilà, va donner ce message à mon serviteur, David Duplessis. Tu ne salueras personne, tu ne diras pas un seul mot à personne, tu ne feras rien d'autre jusqu'à ce que tu aies donné le message que je t'ai mis à cœur de donner. Et après seulement, tu pourras t'occuper des choses en quelque sorte, plus terre à terre, quoi. C'était en gros l'idée. Alors c'est pour ça que je me suis permis de rentrer comme ça. Alors David lui dit oui, bon, d'accord, mais enfin, bon, quand même, quoi, ça secoue un peu. Et alors donc, ils ont reparlé de cette vision longuement. Et Smith a précisé un certain nombre de choses. Et puis il lui dit, vous serez amené à travailler, à voyager beaucoup. Et il dit, maintenant, il a dit, Smith, mettez-vous à genoux, je vais prier parce que le Seigneur vous montre que je vous, comme vous allez voyager beaucoup, il faudra que vous ayez une bonne santé. Alors j'ai prié pour que le Seigneur vous donne pendant toute votre vie une bonne santé. Et David Dupessier a pu témoigner, il dit, j'ai pratiquement toujours eu une santé extraordinaire, une santé de fer. Il dit, j'ai pratiquement jamais été malade, je ne sais pas ce que c'est que la maladie. Et dans les conditions dans lesquelles il a vécu, dormant dans des conditions abracadabrantes, c'était un véritable miracle. C'était à la suite justement de la prière que Smith avait donc fait monter à son sujet. Donc... Oui, il avait dit, c'est exactement ce qu'il a dit, tu vivras assez longtemps pour en voir l'essentiel. Alors, c'était une véritable révolution aussi pour David Duplessis, qui avait été rejeté. Ça remettait en cause beaucoup de choses dans sa vision. Il avait été rejeté par son église, l'église réformée, comme beaucoup de pentecôtistes. Et il estimait que les églises traditionnelles étaient finies, quoi, que le Seigneur les mettait au rancard et que donc il n'y avait plus rien à attendre d'elles. Et 3 semaines donc après la fameuse prophétie de Smith et Wigglesworth, David Duplessis a reçu une invitation des Assemblées de Dieu des États-Unis pour y faire une tournée. Et c'est ainsi qu'en 1937, il est parti pour les États-Unis prenant un sujet spécial. Il est parti en tant que responsable donc du mouvement de Pentecôte sud-africain. Et avant de partir, il en a parlé à Smith. Il a dit, est-ce que éventuellement cette invitation aurait à voir avec la vision que vous avez eue pour moi? Et bon, Smith ne pouvait pas dire vraiment. Bon, enfin bref, il est parti pour les États-Unis. Et là, donc, il a pu sillonner un peu le pays, visiter pas mal d'églises. Et c'est là qu'est née l'idée de créer une conférence mondiale de Pentecôte. Ces fameuses conventions mondiales de Pentecôte dont nous avons parlé sont nées donc dans cette année 1937 à l'occasion du voyage qu'a effectué donc David Duplessis aux États-Unis. Là, il a rencontré Donald G. qui se trouvait également aux États-Unis. Et Donald G. a adopté cette idée avec enthousiasme. Il en a été ensuite un des principaux protagonistes, artisans, n'est-ce pas ? Il a milité, il avait déjà un ministère mondial à cette période-là. Et Donald G. a proposé que ce jeune homme, qui était David Duplessis, devienne secrétaire général de cette conférence mondiale de Pentecôte. De là donc, Duplessis est revenu en Europe, où il s'est rendu en Norvège. Et là, il a rencontré donc Thomas Barratt, et ce dernier, notamment, a prophétisé qu'une guerre mondiale allait éclater et qu'il n'y aurait pas de rassemblement mondial qui avait été que le projet allait tomber à l'eau. Et de fait, en 1939, la guerre a éclaté et David Duplessis est retourné juste avant la débâcle française en 1940 en Afrique du Sud. Et là, il s'est mis en devoir de créer une école biblique en Afrique du Sud. Évidemment, il s'est retrouvé dans le même combat que celui qu'il avait déjà affronté lorsque lui-même avait entrepris des études secondaires. Et il aura donc des combats terribles jusqu'au moment où, en 1944, il crée donc cette fameuse école biblique. Bon, c'est l'époque aussi où David Duplessis se trouve au confluent de querelles qui divisent les églises d'Afrique du Sud et les églises tout court entre elles, n'est-ce pas ? Et donc en 1944, il revient en Europe, la guerre s'achève, et il reprend l'idée justement de ce congrès mondial. Ce congrès a lieu à Zurich, donc en 1947. Il rassemble 2000 délégués venant de 22 nations. C'est le premier congrès pentecôtiste mondial. C'est l'époque où David Duplessis donc, va profondément marquer ce mouvement mondial. Et là, avec sa femme, il s'installe à Zurich. Il s'était installé à Zurich depuis 1944 pour préparer donc ce mouvement, cette rencontre. C'était juste après la guerre, les loyers étaient hors de prix, il n'y avait absolument pas moyen de trouver le moindre appartement à Zurich, n'est-ce pas? Et il avait prié, le Seigneur lui avait montré qu'il allait lui donner ce dont il avait besoin, et miraculeusement, il avait eu la possibilité de se loger, lui et sa famille. Après donc le congrès de Zurich, il est décidé que le prochain congrès mondial aura lieu à Londres, donc David Duplessis, qui est chargé par le mouvement de Pentecôte mondiale d'être le coordinateur d'un congrès à l'autre de ces rencontres mondiales, va donc se rendre à Londres à cette fin. Et de là, donc, on l'invite aux États-Unis pour continuer cette œuvre, puisque c'est quand même essentiellement des États-Unis que viennent les gros bataillons. Bon. Surtout qu'il a ça sur le cœur de la part de Dieu. Dieu lui dit « va à New York ». Va à New York pour préparer ce travail. Bon, il n'a pas un sou, c'est après la guerre. Et le Seigneur lui montre qu'il va pouvoir. Et de fait, il rencontre providentiellement un missionnaire qui lui remet 100 dollars, c'est-à-dire, à cette époque-là, le prix d'un voyage Londres-États-Unis. Là, donc, il se rend en Amérique, où il va discuter avec les principaux responsables des différents mouvements Pentecôte américains les résultats du congrès de Munich, de Zurich, pardon. Et c'est là que donc Dieu lui rappelle la prophétie de Wigglesworth et lui dit eh bien prépare-toi à un moment où en ce moment tu es reçu partout, tu as beaucoup de succès, mais viendra un temps où tu seras seul. Le Seigneur lui annonce un moment difficile. Et de fait, le Seigneur lui dit, eh bien, écoute, il faut que tu te prépares à cette rencontre, à cette mission, et par conséquent, que tu démissionnes de ton poste de secrétaire général du mouvement de Pentecôte mondial. Alors évidemment, c'est quelque chose qui lui coûte, il est jeune, c'est un poste de très grande responsabilité pour quelqu'un de son âge. Mais bon, il obéit au Seigneur et il envoie donc sa démission pour se rendre en Europe. Et c'est là donc qu'il écrit à sa femme, il lui dit voilà ce que j'ai fait. Il dit voilà, tu vends tout et tu viens me rejoindre en Suisse. Tu viens tout à Londres où il s'était installé et tu viens me rejoindre ensuite. Évidemment, sa femme qui vient de s'installer là-bas dans un joli petit pavillon, etc., c'est pas quelque chose de très facile. Et elle commence par lui dire « mais tu es fou », etc. Puis finalement, bon, elle se place devant Dieu et Dieu lui montre que c'est le plan, c'est son plan, c'est sa volonté pour eux. Et c'est ainsi donc qu'ils se rendent en Suisse, pardon, c'est dans cette deuxième visite en Suisse qu'ils ont eu ces problèmes de logement auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Et c'est un autre pasteur de Bâle qui devait quitter un logement justement qu'il avait, qui le met à la disposition de David Duplessis, tout à fait miraculeusement. Bon, c'est à Zurich, quand il vient de s'installer dans cette nouvelle maison, que David Duplessis apprend la mort de Smith Wigglesworth. Et donc là, le temps va venir maintenant pour lui d'entrer dans cette mission que le Seigneur lui a montrée. Mais David Duplessis n'est pas encore tout à fait prêt à cette vocation que le Seigneur lui adresse. Et c'est alors que le Seigneur va avoir des moyens tout à fait étonnants pour l'amener justement à cette obéissance. Nous sommes en octobre 1948 et David Duplessis, toujours actif dans la conférence mondiale de Pentecôte, même si officiellement, bon, il continue, il a donné sa démission, mais il est encore... Il n'a pas encore de successeur désigné, donc il expédie les affaires courantes. Et à ce titre, donc, il est aux États-Unis. C'est la fin de l'année, il pleut terriblement. Et le soir, il revient d'une réunion dans une voiture qu'il a achetée là-bas. Ce n'est pas lui qui conduit, c'est un de ses amis. Lui, il est tellement fatigué qu'il s'est assoupi et il dort à côté du chauffeur. Et vous savez ce qui se passe aux États-Unis, les passages à niveau ne sont pas gardés. Même sur les grandes lignes, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore les feux clignotants, etc., chacun est amené à s'engager sur les passages à niveau, si j'ose dire, à ses risques et périls, et à éviter de s'engager s'il a le moindre doute. Bon, c'est la nuit, c'est l'automne, il peut tomber une pluie décorde, la visibilité est très mauvaise. Et donc, la voiture s'engage sur la voie ferrée, donc sur le passage à niveau, juste au moment où arrive un express à toute vitesse. Duplessis a juste le temps de se réveiller. Il gardera longtemps la vision de la locomotive qui arrive à toute vitesse. La voiture est traînée sur des dizaines et des dizaines de mètres. David Duplessis et son camarade sont totalement inconscients. On les retire de là, la voiture est complètement broyée. C'est miracle qu'il soit vivant, mais il est très très mal en point. Il est hospitalisé, il a des plâtres partout, il a des fractures diverses, etc. Et là, donc, il va se retrouver immobilisé pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, à cet hôpital, à la suite de ce terrible accident qui aurait pu lui coûter la vie. Et là, donc, la question qui monte de son cœur est celle-ci au Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que tu as permis cela ? Et soudain, lui revient la prophétie de Smith Wigglesworth. Et si on lui dit, parce que maintenant, le temps est venu pour ça. Ben, le temps est venu, mais je suis là, moi, sur ce lit d'hôpital, inerte. Je ne sais pas si je pourrais même remarcher un jour. Qu'est-ce que je peux faire ? Le Seigneur dit non seulement tu vas remarcher, mais les choses vont se passer. Et pourquoi tu as permis cet accident, Seigneur ? Alors, quel rapport en serait cet accident et la vocation que tu m'as adressée ? Et le Seigneur lui dit, parce que maintenant, justement, le temps pour toi est venu d'aller vers les églises historiques. Et c'est là que David Duplessis lui dit, oui, mais Seigneur, ces églises historiques, elles ne vont pas nous écouter. Déjà, au début du siècle, elles nous ont exclus, etc. Je vais me faire chasser à nouveau du milieu d'elles. Le Seigneur lui dit, cette fois-ci, elles vont écouter. La première fois, elles n'ont pas écouté, mais cette fois-ci, elles vont écouter. Alors, va vers elles. Va et ressuscite-les. Alors là, il dit, Seigneur, je ne les aime pas. Alors, Seigneur dit, c'est le problème. Tu ne les aimes pas. Eh bien, justement, il faut que tu apprennes à les aimer. Tu ne peux pas leur apporter quelque chose si tu ne les aimes pas. Et c'est pour ça que je t'ai arrêté. Pour que justement tu apprennes à les aimer et que là, pendant tout ce temps, moi je vais te dire ce que tu auras à leur dire et comment tu devras leur dire. Et pendant ces mois d'hôpital, donc, David Duplessis a reçu du Seigneur l'essentiel des grandes lignes de ce que devait être son ministère futur. Et là, donc, il a complètement changé de vision vis-à-vis de ces églises historiques vis-à-vis desquels il avait donc ses préjudices, même si il avait toujours au fin fond de sa mémoire la fameuse prophétie de Wigglesworth, mais elle s'était quand même terriblement estompée à cette époque-là. Au bout de quelques mois, donc, David Duplessis a pu retrouver quand même l'usage de ses moyens, et notamment, donc, il a repris l'organisation de la conférence qui devait se tenir à Paris en 1949. Ça s'annonçait plutôt mal. Et notamment, il y avait des difficultés pour trouver des lieux assez grands pour pouvoir tenir tout ce monde-là, bon, etc. Enfin, il a eu quand même lieu, sous la direction du pasteur Fauvel, qui se trouvait justement à Paris. Et il a été décidé que la prochaine rencontre, la rencontre suivante, aurait lieu en 1952, donc le 3 novembre. C'est l'époque où donc David Duplessis décide de s'installer définitivement aux États-Unis. L'Église de Dieu, Church of God, lui offre un poste de pasteur là-bas, mais après son accident, il a été changé en un autre homme. Et là, on lui propose aussi un poste d'enseignant dans une école biblique. Il s'y rend parce que le Seigneur lui dit d'aller, et là, c'est l'occasion dans cette école biblique d'un extraordinaire réveil. Puis, au bout de quelques mois, le Seigneur lui dit, c'était pour un temps, simplement pour ce réveil, maintenant tu dois aller plus loin. Et c'est alors que, se trouvant à cette école biblique qui se trouve dans les environs de New York, il lit cet éditorial du pasteur John McHagh, qui est doyen de la faculté de théologie de Princeton à New York, et qui a écrit sur cette troisième voie, le pentecôtisme comme troisième voie. Et c'est là donc qu'il téléphone à ce professeur de théologie, qui l'invite à déjeuner. Et là, il a un entretien extraordinaire avec cet homme qui apparaît comme vraiment ayant une faim, une soif des choses de l'esprit, qui laisse Duplessis sans voix. Et là, il se rend compte que ce que le Seigneur lui avait dit était vrai, cette fois-ci, ils ne te rejetteront plus. Et au contraire, maintenant, ils vont recevoir. Alors, le lendemain, ils s'enhardissent, et c'est là qu'ils décident d'aller au siège du Conseil œcuménique des Églises à New York. Il n'est pas attendu, il ne connaît personne là-bas. Il va avec l'audace de la foi. Alors, il entre dans le building, le secrétaire lui... monsieur, vous voulez quelque chose, cherchez quelque chose. Il dit, écoutez, non, simplement, je suis ici de passage. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Et alors il prie, dit, Seigneur, je suis là maintenant, tu m'as dit de venir là, ben, je suis là maintenant, qu'est-ce que je fasse? Le Seigneur lui dit, tu montes au deuxième étage. Bon, monte au deuxième étage. Enfin, je dis le deuxième étage, hein, vous voyez, je n'ai plus les souvenirs exacts. Quoi, hein. Et puis le Seigneur lui dit, tu frappes porte 103, par exemple. Bon. Et secrétaire, etc. Monsieur, est-ce que je pourrais voir le pasteur Intel? Donc, c'était la secrétaire du pasteur Intel. Ah, vous êtes attendu, monsieur? Vous avez un rendez-vous? Non? Ben, écoutez, vous savez, monsieur le pasteur, responsable ici d'un grand département, je crois que c'était, si ma mémoire est bonne, c'était représentant de Foi et Constitution. Il faut prendre rendez-vous des mois d'avance, ou en tout cas des semaines d'avance. Écoutez, je pense que monsieur le pasteur est prêt à me recevoir sans rendez-vous, lui dit David Duplessis. Est-ce que ça ne vous dérange pas d'aller le voir? Qui dois-je annoncer? Pasteur David Duplessis, quelle église? Assemblée de Dieu, ou Church of God, je crois, il était Church of God à cette époque-là. Et à la grande surprise de la secrétaire, la secrétaire revient et dit « Le pasteur vous attend ». Et donc, il est introduit dans le bureau du pasteur. Et là, il dit « Qu'est-ce qui vous amène ?» Et David Duplessis répond « L'amour de Dieu ». Et il lui explique. Il lui explique tout son cheminement, la prophétie de Wilkerson, son accident, et Dieu qui lui a dit « Le temps est venu », et le Seigneur qui l'a conduit, il dit « Voilà, c'est vers vous que j'ai été conduit, la preuve, j'étais bien conduit, c'est que vous étiez justement disponible alors que votre secrétaire m'a dit que vous, en principe, vous ne l'étiez pas. » Et cet homme était absolument bouleversé. Il a parlé toute la matinée avec lui, et à la fin de la matinée, le pasteur dit « Ça ne vous dérange pas que j'appelle mes collaborateurs ?» Il a rassemblé tous ses collaborateurs, ils ont continué à parler. Il dit, mais ça ferait peut-être aller déjeuner. Écoutez, vous êtes pris là maintenant? Non, je suis disponible. Bon, écoutez, on va aller manger un petit restaurant là-bas, puis on continuera à discuter. Et alors donc, ils sont allés s'attabler. Il dit, j'ai pour ainsi dire pas mangé, il dit, parce que je vais parler tout le temps. Enfin, c'est eux qui ont payé, c'était l'essentiel. et donc, ils sont restés toute la journée en discussion. Et donc... Le responsable, qui s'appelait Maquet, lui a dit, écoutez, est-ce que ça vous dérangerait? Il y a une rencontre du Conseil œcuménique des Églises en Allemagne dans quelques temps, dans quelques mois. Je vais vous faire avoir une invitation. Est-ce que ça vous dérangerait de parler de ces choses là-bas, ce que vous venez de nous dire là, à ce Conseil? Et c'est ainsi que David Duplessis est arrivé donc à ce congrès en Allemagne, qui était déjà commencé. Et alors donc, il est arrivé pour s'inscrire, bon, et il lui a dit, bon, vous êtes là pour combien de temps? David Duplessis s'est dit, personne ne veut de moi ici, je ne suis pas connu, je ne connais personne. Si je suis là 3 jours, ce ne sera pas trop mal. Il dit, inscrivez-moi pour 3 jours. Bien, alors, bien, il gagne sa chambre, et puis il descend pour le dîner le soir. Et Maquet lui dit, mon grand ami pentecôtiste. Tout le monde a regardé. Il a dit ça d'une voix forte. C'était un pentecôtiste au COE, au Conseil œcuménique des Églises, mais c'était pas pensable. Ah, je vous présente, et c'est mon grand ami pentecôtiste, David Duplessis, etc. Et alors, après le repas, tout le monde est venu le voir, dit, mais j'ai entendu beaucoup parler de ce mouvement de Pentecôte, est-ce que vous pourriez nous en parler? Il dit, j'ai parlé jusqu'à 1 heure avancée de la nuit avec les uns, avec les autres. Puis après, donc, il dit, écoutez, Il faut que nous fassions une réunion spéciale avec vous. Vous allez nous parler, n'est-ce pas, du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, ils ont eu une réunion très tard dans la nuit. Et c'est là que Duplessis leur a dit, écoutez, restez dans vos églises. Recevez le baptême dans le Saint-Esprit, restez dans, dans vos églises pour transformer vos églises de l'intérieur. C'est ça aux responsables des églises, hein, pas aux membres, hein, mais aux responsables des églises. Et donc là, il y a eu une puissante effusion du Saint-Esprit. Alors il a trouvé des gens d'une ouverture totale. J'ai entendu raconter ça, c'est pour ça que je vous le raconte comme ça, comme j'ai entendu de sa bouche. Hein. Il disait, là, j'ai trouvé des gens qui m'ont dit ceci, écoutez, voilà, vous avez toute liberté. Vous pouvez passer la nuit si vous voulez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez nous exhorter. Vous pouvez nous enseigner. Vous pouvez nous reprendre, même si vous voulez. Mais dites-nous ce que le Seigneur vous a dit de nous dire. Et il dit, dès que j'ai commencé à parler, il dit, j'ai senti une onction de l'Esprit. J'ai eu un tel amour pour ces hommes. Il dit que j'aurais été prêt à mourir pour eux. Et il dit, ils l'ont senti. Donc cet amour dont le Seigneur lui avait parlé quand il lui avait dit « Je ne les aime pas », il dit « Je te donnerai de les aimer ». Et il dit « Là, j'ai eu un tel amour pour eux que j'étais prêt à mourir pour eux ». Et il dit « Ça a été un moment absolument extraordinaire ». Et à la fin, il y en a un qui a dit « Alors, ils ont posé des questions, tout ça ». Bon, évidemment, qu'ils faisaient. David Duplessis racontait ça. Et il a dit « Mais est-ce que vous pourriez nous faire une démonstration du parler en langue ?» Alors, il dit « Écoutez, bon, je veux bien, mais alors... vous êtes très respectueux, très calme, etc. » Alors, il s'est mis à parler en langue quelques minutes, simplement. Il dit, quand je me suis arrêté, les larmes qui coulaient sur les yeux de tous, etc. Et le lendemain, c'était le petit déjeuner. Donc là, il y a... ils viennent ensemble, tout ça. Puis qui était venu la veille, qui arrive, et puis qui le prend dans ses bras, comme ça, et lui dit... Mon grand ami pentecôtiste, c'était, il avait repris les paroles de Mackay la veille. Alors, il dit, mais qui êtes-vous ? Alors, il dit, mais je suis l'observateur officiel du Vatican, envoyé spécial de Jean XXIII. C'était l'époque du pape Jean XXIII. Et j'étais à votre conférence hier, il dit, j'ai pas pu dormir la nuit. Oui. Alors, il a dit, voilà, le pape Jean a dit que l'Église avait besoin d'une nouvelle Pentecôte. Et en vous entendant hier, j'ai compris que c'était de ça que, dans l'Église catholique, nous avions besoin. Alors, il a dit, écoutez, est-ce que vous avez le baptême dans le Saint-Esprit ? Je le sais. Donnez-le-moi. Alors, David Duplessis a dit, moi, j'avais deux problèmes. Le problème, c'est que pendant qu'il parlait, j'étais en train de me dire, je voudrais bien savoir qu'est-ce que ce vieux renard a derrière la tête. Et puis deuxièmement, il dit, Seigneur, tu sais que j'aime pas les catholiques. Les protestants passent encore, mais les catholiques sûrement pas. Alors il a dit, écoutez, non, je peux pas prier pour vous ce soir. Et il dit, parce que voilà, vous savez... c'est Dieu, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vous donner le baptême. Alors, l'autre l'a repris dans ses bras et lui a dit des paroles affectueuses, mais plus lesquelles. Alors, tout ce monde, le Mackay s'est levé et a dit, regardez ici, vous avez une image œcuménique absolument extraordinaire. Un pentecôtiste qui est en dehors du Conseil œcuménique des Églises et un catholique qui est hors du Conseil œcuménique des Églises et ils sont frères. Alors, Duplessis est allé donc dans sa chambre et là, il s'est jeté à genoux. Il dit, Seigneur, je ne peux rien faire pour cet homme aussi longtemps que tu n'auras pas enlevé la haine que j'ai dans le cœur pour les catholiques. Et donc là, l'Esprit du Seigneur est descendu sur lui. Et donc là, il y a eu une effusion du Saint-Esprit extraordinaire qui est descendue sur lui. Et il est allé donc retourner le lendemain vers cet homme. Autant que je me souvienne, il n'a pas prié pour lui et il n'a pas été baptisé dans le Saint-Esprit vraiment. Mais ce prélat l'a invité au Vatican. Il lui dit, écoutez, le pape Jean XXIII donc, a convoqué un concile œcuménique. C'était au moment du fameux concile Vatican II. C'était juste avant, c'était donc au début des années 60. Et donc, je vais vous faire avoir une invitation officiel pour que vous soyez observateur protestant au concile œcuménique. Donc, comme vous savez, il y avait des observateurs protestants. Le concile avait invité donc des observateurs de toutes les églises. Et donc, David Duplessis a été l'un d'eux. Il a donc, grâce à cette rencontre providentielle qui a eu lieu en Allemagne, il y a eu ensuite une deuxième rencontre, je crois, à Londres, quelque temps après, dans le même cadre. C'était, oui, c'est ça, en 1962. Et c'est donc après, là, donc, bon, là, il a eu des problèmes avec ses frères pentecôtistes. Ses frères pentecôtistes qui, sachant que non seulement il avait été au Conseil œcuménique, mais qu'il était, qu'il était sur le point de partir à Rome pour assister au Concile de Vatican II, là, c'était trop, comme on dit en anglais, c'était plus que ce qu'il pouvait avaler. Et donc là, il a été démissionné, disons, bon, de toute façon, il était décidé à donner sa démission, mais enfin, bon, il a été pratiquement excommunié, oui, je crois que le mot est à peine trop fort, des autres pentecôtistes, quoi. Et ce n'est que des années plus tard qu'on lui a rendu justice et qu'il a donc été réintégré. Et donc, oui, là, il avait entre-temps aussi, en 1964, il avait été invité à l'Assemblée du Conseil œcuménique des Églises par le président lui-même, Visser Hooft, pour parler du Saint-Esprit, justement, et ça avait été répercuté dans toute la presse. Et alors, donc là, il a eu un problème. C'est là qu'il a dit, on a commencé à le connaître comme l'ambassadeur du baptême dans le Saint-Esprit. Or, il a dit, « Seigneur ne m'a pas envoyé pour prêcher le baptême dans le Saint-Esprit. » Le Seigneur lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, « Tu es envoyé pour prêcher Jésus. » Alors, il a changé son message. Au lieu de parler du baptême dans le Saint-Esprit, il a parlé de Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Et partout où il passait, il insistait énormément là-dessus. Disant, je ne suis pas envoyé pour prêcher le baptême dans le Saint-Esprit, je suis envoyé pour prêcher Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Alors finalement, ça revenait au même, si vous voulez, mais c'était une autre manière de présenter les choses et d'une manière tout à fait claire. Alors, dans cette fameuse assemblée d'Evanston, on lui a demandé, il dit, mais quand on vous entend prêcher, mais vous dites exactement les mêmes choses que nous sur le baptême, sur le Saint-Esprit. Alors, il avait eu beaucoup d'humour, David Duplessis dit, oui. Il y a une différence, c'est que vous gardez ça au réfrigérateur, tandis que moi je le mets sur la table. Alors ça faisait toujours un peu rire tout le monde, mais c'était en même temps des choses qui passaient. Et c'est donc là qu'il a rencontré aussi donc un missionnaire sud-africain qui s'appelait Bennett, qui était un épiscopalien et qui a été baptisé dans le Saint-Esprit quand il a prié pour lui. Et alors, le réveil charismatique, le premier réveil charismatique a éclaté dans ces années 62-63 au sein de l'Église épiscopalienne aux États-Unis par l'intermédiaire de ce pasteur Bennett, qui a d'ailleurs été mal vu, il a été plus ou moins combattu et a eu des grosses difficultés. Finalement, il a réussi à se maintenir au sein de son Église quand même. Et ça a été donc la première expérience qui a été faite d'une Église historique qui a reçu véritablement le baptême dans le Saint-Esprit. Bien entendu, ça a provoqué une nouvelle dégradation de ses relations avec les pentecôtistes. Bon, peu de temps après, le pasteur Bennett a dû démissionner donc de son église. Il s'est installé à Seattle avec une toute petite œuvre d'évangélisation. Ça a été quand même finalement un échec au bout de quelques temps. Mais c'était quand même un premier pas. Bon, de là donc, on verra ça la prochaine fois, David Duplessis a été invité à Stockholm, puis de là, donc, il est devenu en quelque sorte une sorte de pentecôtiste indépendant. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, est-ce que quelqu'un prête juste un crayon pour marquer où on en est. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus ?